When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'1 million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bache, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. L'amour n'est-il pas toujours un pari? On se lance, on croise les doigts, on imagine, on espère et puis on le sait, ça ne sera pas forcément comme on l'avait rêvé. Mais si comme Franck, on vous disait que vous deviez faire le grand saut seulement au bout de 15 jours, comment réagiriez-vous?
On est en avril 1985 et j'ai 28 ans. J'étais sportif de haut niveau. J'ai été en équipe de France jusqu'en 1980. Alors moi, je suis dans le trampoline. Je suis prof de PS et je travaille dans la région lyonnaise. Et je continue à entraîner. J'ai lancé un club à côté de Lyon, là, à Satonnet-Camp. Je suis invité à participer à une démonstration qui s'appelait Acrotramp. Une réunion de plusieurs fédérations nationales, de ski acrobatique, de trampoline, de plongeon. Cette acrotrampe se situe à Tignes, donc c'est pour ça qu'il y avait le ski acrobatique. J'ai oublié aussi, qui était très important, puisque c'était un endroit qui réunissait tout, c'était assez formidable. Et je suis invité pour faire partie de l'encadrement, s'occuper de ce stage. Et puis également, je faisais des démonstrations de trampoline, puisque je continuais à faire du trampoline comme ça pour le plaisir. Un mois avant, je me posais la question si je vais pouvoir y aller, puisque je me casse la cheville en décembre, pendant les cours de PS. Et le temps de récupérer, j'ai encore mal pendant un certain temps. Au mois de mars, j'appelle le responsable, et finalement, ça se rétablit à peu près. Alors j'arrive à Tignes, et puis le responsable de cet événement fait une réunion avec tout l'encadrement et nous explique comment ça va se passer. Et il nous dit, nous allons accueillir l'équipe nationale polonaise de gymnastique acrobatique. Et puis il nous dit... il va falloir trouver une personne qui s'occupe de l'équipe polonaise. Tout le monde se regarde, on n'est pas tellement venu pour s'occuper des Polonais, ça embarrasse beaucoup de gens, enfin, ça embarrasse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui... Personne répond à l'appel. Donc, il se trouvait que j'étais... Je suis à côté d'un gars que j'ai rencontré deux fois dans l'année précédente et même une fois en début d'année, mais je le connais pratiquement pas, qui est le président du club d'Antibes de trampoline. Il est à côté de moi, donc on discute un peu, mais on se connaît pas. Et finalement, on se retourne, on se regarde, on dit bon, on va quand même prendre nos responsabilités. On peut pas accueillir une équipe et ne pas s'en occuper. Alors on dit en gros à deux, bon, ça sera plus facile. Bon allez, on est d'accord pour s'en occuper et faire ce qu'il y aura à faire. Donc ils sont trois, cinq, allez, une douzaine de personnes quoi. C'était l'équipe nationale polonaise. Alors c'était les meilleurs évidemment. Alors, je l'apprends par la suite. Eux, quand ils arrivent en France, on leur dit « Vous partez faire des démonstrations en France ». Mais on leur dit jamais qu'ils partent en montagne. Donc, ça a été notre première mission de les équiper, quoi, en gants et en lunettes. Certains parlent anglais, peu, mais certains parlent anglais. Donc, on arrive à échanger comme ça et... Et puis après, bah, il y a l'organisation. On leur explique comment doit se passer la semaine avec les différentes démonstrations qui sont prévues. Bon, ils arrivent, ils connaissent personne aussi. Ils sont un petit peu timides quelque part. Et puis bon, on les met en confiance, on se présente. Donc c'est sympa. Mais eux, ils arrivent, ils découvrent. Ils commencent à faire un peu de ski. On commence à faire leur première journée. Et puis on dit avec Jean-Claude là qui était mon collègue bon on va les sortir il a fallu négocier ferme pour faire en sorte que les gymnastes adultes ce qui est normal puissent nous accompagner et sortir le soir avec nous au bar ou en boîte de nuit etc. Donc ils sont très contents de pouvoir sortir parce que faut remettre un peu dans le contexte c'est en 1985 donc c'est encore très il n'y a pas la fiesta, forcément, tous les jours là-bas. C'est un régime communiste et c'est très fermé. Hein. Ce n'est pas comme chez nous. Les gens ne se rendent pas compte ce que c'était et ce que c'est un régime communiste comme ça. Comme il fait beau temps, la journée, il fait relativement chaud. Donc, les gymacros font leur démonstration en tenue de compétition. Donc, les filles en juste corps. Donc, là, on découvre les belles jeunes filles. Je commence à flasher sur une des gymnastes. Élancée, elle a des belles jambes et puis un très beau visage. Un corps de gymnaste, quoi. Donc, elle est magnifique. Elle s'appelle Margojata, donc c'est plus simple, Margot. Quoi. Et bon, bah, je commence à avoir des discussions un peu plus... On discute davantage, et puis bon, bah, ce qui doit arriver, arrive. Hein. C'est en soir, en boîte de nuit. C'est là que ça se passe, et puis je pense que... Moi, je l'avais fait rire, je la fais rire, parce que pendant les démonstrations, je faisais des démonstrations de trampoline. Bon, j'étais moins fort que l'équipe de France, mais je faisais surtout, à la fin du spectacle, je montais sur le trampoline avec des skis et je faisais salto arrière avec des skis. Donc, ça l'a fait bien rire. Et donc, bon, y a eu un contact qui s'est fait. Et ça, au bout du troisième soir, quoi, je crois que ça se passe. Et puis, bon, ben voilà, quoi, on se dit, bon, ben, on passe une bonne semaine. Quoi. Dernière soirée bien festive. On ne se couche pas, d'ailleurs. C'est toute la nuit, on fait la fête avec tout le groupe. Et puis, bon, on prend nos adresses. Et puis voilà, quoi. Pour elle comme pour moi, c'est sans lendemain, quoi. Je lui écris, elle me réécrit. Bon, rien d'extraordinaire, on raconte un peu ce qu'on fait, on garde le contact. Puis il se trouve qu'à la fin de l'année 85, donc en décembre 85, il y a une Coupe du Monde de trampoline à Antibes. Mon collègue, là, me dit « Bon, bah, tu vas venir à la Coupe du Monde et j'ai une bonne surprise pour toi, je fais venir le trio de Margot à cette Coupe du Monde. » Mais là, pas toute l'équipe, là, juste un entraîneur et le trio dans lequel appartient Margot. Donc, on se retrouve, on est très contents, elle aussi. On poursuit notre histoire, donc on se voit 3 jours à Antibes. ça commence à devenir un peu sérieux. Les sentiments commencent à venir, mais on décide finalement un petit peu de poursuivre l'aventure, d'essayer de se connaître davantage, puisque malgré la distance, oui, et puis comme le feeling passait bien, on se dit, bon allez, je sais pas si c'est encore de l'amour, mais je dis, bon, allez, ça me fait plaisir, vraiment de plaisir de la retrouver, et puis on décide que je vais venir en Pologne, à Varsovie, la voir pendant une semaine de vacances, 5 jours. C'est compliqué parce que pour obtenir un visa, faut une invitation d'un Polonais qui invite un étranger à venir. Et c'est pas simple, hein, ça se fait pas. C'est pas comme maintenant. Allez, je vais à Varsovie, je vais sur Internet. Tiens, il y a une place, j'y vais. Non. J'arrive en Pologne et puis elle m'accueille. Elle habite à Varsovie, toute seule, un studio dans le centre de Varsovie. Alors, Varsovie, 1985, c'est pas beaucoup de voitures, pas beaucoup de magasins, un peu gris, beaucoup de policiers, d'armées. C'est particulier, quoi. On fait pas les fiers quand on se balade. Enfin, on se sent moins tranquille que ce qui se passe maintenant. Maintenant, Varsovie, c'est comme ici, quoi. C'est la liberté. Pendant cette semaine, elle me fait visiter la ville de Varsovie, qui est très belle. Le centre qui a été reconstruit totalement après la guerre, à l'identique. On visite le centre de Varsovie, on va au musée Chopin, on va... Et donc, on reste tous les deux et ça se passe très bien. Et puis je repars. Il faut qu'on se revoie parce que là, on a vraiment passé une bonne semaine. On sent qu'on s'entend bien. On a le sport de haut niveau en commun, puisqu'elle, elle est championne du monde 2 fois, elle est championne d'Europe plusieurs fois, 8 fois championne de Pologne, bien meilleur palmarès que moi, hein, puisque elle a été championne du monde et championne d'Europe, alors que moi, ma meilleure place, c'est 8e au championnat d'Europe, 13e au championnat du monde, donc... ça se passe bien, si on peut se revoir, on se revoit, ça sera avec grand plaisir. Il n'y a aucun projet, aucune décision. C'est compliqué. Son travail, c'est d'être sportif de haut niveau, parce que là-bas, on est payé en tant que sportif de haut niveau. D'ailleurs, elle gagne plus que son père, qui a travaillé pendant des années. Les sportifs de haut niveau dans les pays de l'Est sont très, très bien payés, à la différence des sportifs français. On est triste parce que c'est passé tellement vite. Et puis on se dit, on va essayer de se revoir, mais il n'y a pas de promesse particulière. On se dit, on va se revoir, mais quand ? Elle me donne le téléphone de sa voisine, alors qui, par chance, parle français. C'est une dame très âgée. Oui, c'est très rare à l'époque d'avoir un téléphone. Et j'appelle chez la voisine, je lui dis, c'est Franck. Alors elle est au courant parce qu'elle lui a raconté son aventure. Je l'appelle et puis elle vient au téléphone, mais je l'appelle pas trop souvent, toutes les semaines peut-être, mais on se voit en avril 86 et puis vers la mi-mai, donc peu de temps après, elle m'appelle, c'est elle qui m'appelle parce que j'ai le téléphone évidemment pour m'annoncer qu'elle est enceinte et qu'elle attend un bébé. C'est une énorme surprise. Elle me dit qu'elle veut le garder parce que elle s'est posé beaucoup la question avant de m'appeler, mais elle osait pas m'appeler. Elle ose pas m'appeler. De peur de dire, comme si c'est peut-être pour elle, comme si c'était une sorte de chantage. Elle peut penser que elle a fait exprès, ce qui n'est pas le cas, quoi. Et sa voisine dit, mais non, tu l'appelles et tu verras bien sa réaction. S'il est proche, s'il t'aime, il dira OK, puis s'il s'en fout, ça sera une affaire terminée. Et elle veut garder l'enfant, mais elle pense qu'elle va le garder seule, parce qu'elle n'imagine pas une seconde que je vais dire OK. Donc quand elle m'appelle, je dis écoute, t'attends un bébé, on le garde et on va se marier. Et on va vivre ensemble. Quand on fait le calcul, on s'est vu 5 jours à Tignes, 3 jours à Antibes et 5 jours à Varsovie. Ça fait 5 et 5, 10 et 3, 13 jours. On y va. Si toi, t'es d'accord, on y va. Parce que, oui, c'est le cœur. Et puis, bon, bah, on attend un bébé quand même. Quand on attend un bébé, c'est quelque chose d'intime et de personnel. Et je me pose même pas la question. Mais elle se pose la question, puis elle dit, bon, bah, si ça marche pas, je pourrais toujours revenir. Parce que c'est clair qu'à partir du moment où on décide de se marier, c'est elle qui doit venir en France. Moi, j'ai un travail en France. Et puis, c'est plus simple pour qu'elle vienne. Donc, je raccroche, je préviens mes parents, j'ai ma mère, je dis, bon, maman, je me marie. Comment ça, tu te maries? Et en plus, tu vas être grand-mère. Donc là, c'était un cataclysme, mais elle était contente. Finalement, elle était contente. Ils étaient contents, mes parents. Bon, j'avais 29 ans, donc c'est pas comme si j'avais 18 ans. Hein. Et on décide donc de se marier en tout petit comité, là où j'habite, à Satonécamp, c'est dans la région lyonnaise. Et on dit, bon, bah, on fixe la date le 26 juillet. Je crois que sa mère, au début, elle était évidemment surprise, mais elle est pour garder l'enfant. Et puis moi, je dis, bon, on ne va pas se marier comme ça. Donc, je décide de partir un week-end pour rencontrer les parents, pour aller, c'est la moindre des choses. Donc, je pars un week-end, je prends un avion le vendredi, et puis je reviens le dimanche soir. Je rencontre les parents, il y a un dîner, le frère, je rencontre la famille, quoi. Il y a un très bon contact avec mes beaux-parents et particulièrement ma belle-mère. Il y a quand même quelque chose en commun, c'est qu'on est catholique. C'est pas du tout pareil, il y a quand même ce lien qui nous rejoint, la religion. Le fait d'avoir la même religion, on a globalement les mêmes valeurs. Pas de blocage, pas de tension, vraiment, c'est très... Alors, ils veulent, selon la tradition polonaise, ils veulent me faire boire, hein, mais moi, je connais un peu la musique, j'ai fait des compétitions, je suis allé en Russie, je sais comment ça se passe. Donc, si c'est pour finir complètement sous la première rencontre avec les beaux-parents, ça se fait pas, hein, et je sais comment ça se passe. Hein, 3-4 verres de vodka, et puis c'est terminé. Hein. Puis c'est marrant parce que c'est la Coupe du Monde de football 1986. Donc on regarde un match ensemble après, parce qu'on mange de bonne heure. En Pologne, on mange de bonne heure. On regarde un match ensemble, puis le match, je suis le seul à donner le bon pronostic. Alors, quand je suis parti, ma future belle-mère a dit bah, si, il est très bien ce gars-là, il est très bien, vas-y, tu peux y aller. Validé par la famille, et donc après, ça a été un peu la course contre la montre pour les papiers, pour elle. Fallait faire plein de papiers, les pièces d'identité pour organiser le mariage. Je suis content, je sais que je vais fonder une famille. J'ai passé une belle jeunesse. J'ai vécu de belles choses puisque j'étais en équipe de France, j'ai voyagé. C'est le bon moment, puis je crois que je sens que c'est la bonne personne et que ça va bien se passer. 26 juillet, on se marie à la mairie, et il y a peu de personnes, hein. Il y a mes oncles et tantes, mon parrain, deux, trois copains qui viennent. Et puis de son côté, personne ne peut venir parce que ses parents n'ont pas les visas, son témoin au départ n'a pas les visas. C'est dur parce que elle ne comprend pas le français. À part moi, elle ne connaît personne. Elle pleure pas, mais elle se dit « Oh là là, dans quoi je m'embarque ?» On va manger dans un restaurant qui s'appelait Le Coin Perdu. C'était dans l'Ain, à côté de Lyon. Et puis après, on se retrouve avec d'autres copains. On fait une sorte de barbecue le soir. On joue, il y a un peu de musique, on danse. C'est assez drôle et puis tout va bien. Puis là, après, maintenant, on est mariés. Hein, donc, alors moi, j'habite toujours Satonécamp, à côté de Lyon. Elle, fin août, elle revient chez elle pour établir tous les papiers. Donc, tout le mois de septembre, à Varsovie, pour faire les papiers, pour venir, on va dire, définitivement en France. Et puis, moi, je suis en attente de mutation et je dois venir sur Antibes, donc sud de la France. Donc, elle est assez contente de savoir qu'on va aller habiter sur Antibes parce que c'est vraiment une très, très belle région. Bah là, on prend un appartement et puis il faut continuer les démarches parce qu'il y a... Il faut faire des déclarations. Puis ben, le ventre grossit, le bébé va arriver début janvier. On est concentré sur ben, les visites à l'hôpital, la préparation de la chambre du bébé. C'est déjà un acte fondateur, ça. On apprend à se connaître, puisqu'il y a des émissions actuellement mariées au premier regard, et il y en a pour qui ça marche. Donc, on était précurseurs. Alors, ce n'était pas au premier regard, mais il y en a qui peuvent vivre des années, et décider de se marier, et puis dès qu'ils sont mariés, ça ne va pas. Eh bien, nous, ça se passe bien. Et puis après, il y a sa mère qui vient au moment de la naissance avec sa nièce, qui vient avec la naissance du bébé. Donc, alors, elle, c'est compliqué parce qu'elle ne parle pas encore vraiment français. Et on a un peu de chance encore. L'anesthésiste est polonaise, donc elle lui parle en polonais, donc ça la rassure beaucoup. Moi, je suis ravi d'avoir ce bébé, cette petite fille, en pleine forme. Elle naît le 6 janvier. Bah, elle est très belle, bon, césarienne, donc elle n'est pas abîmée du tout, elle est magnifique. Bah, la petite, le bébé, là, Célia, là, il est dans le gymnase, hein, tout bébé, elle est dans le couffin. Presque 2 ans et demi après, il y a Olivia qui arrive, le deuxième bébé. Et puis, 6 ans après Olivia, il y a un troisième bébé qui arrive, Solène, la petite dernière. Margot s'arrête un mois, elle entraîne jusqu'à 15 jours de l'accouchement. Elle reprend pratiquement un mois et demi maximum, malgré les césariennes, 3 césariennes. Malgré ça, elle reprend l'activité, même si c'est un peu plus au ralenti au début. C'est une femme indépendante qui est capable de prendre des décisions aussi et de pas écouter forcément « non, tu vas pas partir ». Elle prend ce risque, c'est un risque, hein, parce qu'on est jamais sûr de l'avenir et surtout avec aussi peu de billes finalement dans les poches. Hein, alors après, au bout de 6 mois, elle parle français. Hein. Moi, je parle pas polonais au bout de 35 ans, là. Mais elle, au bout de 6 mois, elle parle français et ça me rend fier hein, que ma femme s'adapte, apprenne vite le français, s'adapte à la France parce que c'est difficile. Puis elle passe d'un pays quand même où il n'y avait pas trop de choses, c'était quand même les restrictions, où là, ça fait un sacré changement pour elle. Mais c'est surtout la langue, la culture, quand même, qui est un peu différente, même si le fait d'avoir la même religion, ça change tout. Et de toute façon, s'il n'y a pas d'amour, puis l'amour s'est renforcé, parce qu'au début, bon, c'est une amourette, après, petit à petit, ça se renforce, et puis au fil du temps, effectivement, il y a le bébé qui arrive, et l'amour est proche, et se rapproche, se renforce, et avance au fil du temps, hein, c'est clair. Hein. Après, au mois de mai, quand le bébé il a pratiquement 5 mois, on fait un mariage qui est le baptême, mais qui est le mariage pour toute ma famille, parce que dans ma famille, on fait des grands mariages, et là, on s'était retrouvés à 17 personnes, je crois, au mariage du mois de juillet. Ses parents peuvent venir. Pour elle, c'est énorme. Alors, c'était pas simple. Puis la nourriture, demander à des Polonais de manger des huîtres. Mais elle adore ça, maintenant. Elle adore les huîtres. Donc, elle s'est vraiment adaptée. Hein. Elle est devenue complètement française à ce niveau-là. Hein. Et en 88, elle lance une section de gymnastique acrobatique sur Antibes. Et ça sera le début de sa carrière d'entraîneur de haut niveau, puisque jusqu'à 2020, elle entraîne sur Antibes en ayant, de 92 à 2020, sélectionné et fait des championnats d'Europe, des championnats du monde, de gymnastique acrobatique. Donc, elle a une grosse réussite professionnelle. Et ça, ça a son importance, parce que moi, je suis devenu entraîneur national. Donc, je crois que pour se comprendre, le haut niveau, ça nécessite beaucoup de compréhension, beaucoup de temps, de sacrifice. Et très souvent, les couples explosent. 90% des conseillers techniques sportifs, ce qu'on appelle les CTS, divorcent. parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait pris en stage, qu'on ait pris le week-end en compétition, qu'on part à l'étranger. Elle, elle est dans la gymnastique acrobatique. Moi, je suis dans le trampoline, je suis entraîneur national. Donc, on se comprend. Le fait d'être sportif de haut niveau et le fait d'être entraîneur de haut niveau chacun, et on connaît les sacrifices, c'est ce qui nous rapproche et qui nous donne une certaine indépendance. Parce que si l'un des deux pratique l'activité de haut niveau, c'est dur, mais il y a des moments de satisfaction. On voyage, même si quand on part en compétition, on visite pas tellement, hein, mais on se concentre un peu quand on est en vacances sur notre projet, le projet qui est d'acheter une maison et d'avoir une maison. Alors forcément, comme nos trois filles sont dans le gymnase dès la naissance pratiquement, elles vont faire du sport de haut niveau, toutes les trois. Les deux premières font de la gymnastique acrobatique. La dernière commence par le trampoline, fait du haut niveau en trampoline et après finit en gymnastique acrobatique. Alors avec des résultats intéressants, puisque la première Célia, elle fait quand même championne d'Europe, championne du monde, elle fait cinquième, ses meilleurs résultats au championnat du monde, en trio féminin, comme sa mère. C'est normal, elle avait fait les premiers championnats de Pologne dans le ventre de sa mère. Ensuite, Olivia, elle fait du duo féminin, elle est vice-championne du monde junior, plus des très bons résultats au niveau européen. Donc, elle continue dans la lignée. Et puis Solène, la dernière, commence par le trampoline, est très forte en trampoline. Elle est quatrième au championnat du monde, quatrième au championnat d'Europe junior, championne du monde synchro en 15-16. Et malheureusement, en 2010, elle fait une chute, elle prend peur au trampoline et elle a du mal à continuer. Elle reprend en gym acro et très vite, elle a des qualités, hein. Et quelques temps après, elle arrive à avoir des très bons résultats jusqu'à finir cinquième au championnat du monde en trio. Donc, elles ont suivi une carrière de haut niveau, toutes les trois. Elles ont toute la volonté. Je crois que c'est l'esprit de leur mère, là. Allez, il faut gagner. C'est une gagnante, hein, Margot. Hein, elle ne lâche rien. C'est clair que quand elles ont leurs résultats, on est très contents. Quand on a nos filles sur un podium, on en pleure, hein. On leur a transmis la fibre de la gagne. Dans moins d'un mois, on fête nos 35 ans de mariage. Donc, c'est une belle aventure. On ne croit pas au départ qu'on va y arriver, mais quel que soit le mariage, hein. Puis finalement... on n'a pas eu tellement de clash, c'est très peu arrivé. On a réussi à passer à travers les années et surtout c'est la famille. On a soudé finalement notre relation à travers la famille, la construction des maisons, d'un lieu de recevoir la famille, faire en sorte que la famille soit bien. Et on a toujours privilégié les enfants. On partait pas forcément en vacances, mais bon, ils avaient la Ils partaient en compétition, donc on ne peut pas tout faire. Hein. C'est une grande réussite, ça fait 35 ans, et il y a eu beaucoup de successions de hasard qui fait que... Parce qu'il y a plein de fois où ça n'aurait pas dû le faire. J'étais pas sûr de faire cet accro-trempe, là, ce stage, à Tignes. On peut communiquer avec le téléphone de la voisine. On se retrouve finalement, elle parle très vite le français... Il y a toute une succession de choses dans le bon sens, on va dire. On aurait dit que l'histoire était écrite et qu'il fallait que ça se passe comme ça et que tous les obstacles qu'auraient pu arriver, et hop, il y a comme s'il y avait quelqu'un qui avait guidé un petit peu. Ah non, non, toi, tu vas faire le stage. Hop, bon, toi, tu veux pas t'occuper des Polonais, tu vas quand même t'en occuper. Thank you. C'est la famille. Le socle, c'était le travail et la famille. Maintenant, c'est... Bon, Margot arrête de travailler. Et moi, je continue, mais je vais bientôt être en retraite. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en région parisienne, pour être plus proche des enfants. C'est le socle, la famille. C'est ce qui est le plus important. On est content. Là, je vois, elle est partie quelques jours en vacances voir sa mère. Ben, on s'appelle tous les jours. Hein. Puis là, je la rejoins dans 15 jours. Là. Dans 15 jours, je vais la retrouver en Pologne. Non, on se sent bien ensemble. Et puis, on pourra dire à la fin de notre vie si c'est un pari gagné, mais il était pour l'instant bien gagné, puisque 35 ans, les trois enfants, les trois petits-enfants. Pour les 35 ans de mariage, je vais lui dire que je l'aime, que je suis très heureux d'être avec elle et que pour rien au monde, je voudrais changer de femme.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.